Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Rosalie Suc, Hélène Lefrançois, Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Morgane Danan. Deuxième temps de notre série consacrée aux frontières, après nous être intéressés hier au mur entre les États-Unis et le Mexique, et avant d'aborder demain les différents frontaliers en Asie centrale, et puis jeudi aux conflits territoriaux en mer de Chine méridionale, intéressons-nous aujourd'hui aux nouvelles portes de l'Europe, Turquie, mais aussi Maroc, Libye ou Niger. À travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, les pays européens délèguent à d'autres leur politique migratoire, les incitant à retenir les demandeurs d'asile chez eux en échange d'une aide financière internationale. C'est la question qu'on va aborder ce matin. Les nouvelles portes de l'Europe, c'est notre sujet ce matin.
J'ai déjà vu beaucoup de gens mourir sur cette route pour rejoindre l'Europe, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a aucune possibilité, tu sais, on n'a pas d'autre choix. Je sais que certains peuvent mourir sur la route, on le sait tous, mais on essaye quand même.
Vous savez qu'à La Valette, nous avons convenu, dans le cadre du sommet Europe-Afrique, de nous attaquer tous aux causes profondes de la migration. Nous avons tous pris des engagements, pays de destination, que sont les pays européens, pays de transit comme le Niger, pays d'origine, nous sommes tous engagés à faire face à nos responsabilités, à partager les responsabilités, à mettre fin à ce drame.
Avant, je travaillais avec les touristes et je gagnais beaucoup d'argent. Maintenant, il n'y a plus de touristes. Donc, je travaille avec les migrants pour faire vivre ma famille et survivre. Je ne peux pas arrêter d'être passeur si je n'ai rien d'autre.
Voilà, on entendait un témoignage d'un migrant ghanéen à Agadez, mais également le président nigérien Mamadou Issoufou sur la coopération entre l'Union européenne et les pays africains, et puis le témoignage aussi d'un ancien guide touristique à Agadez devenu passeur. Si le Niger est l'un des principaux pays de transit pour les migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe, c'est aussi une figure de proue de cette politique de délégation de la gestion de migrants opérée par Bruxelles depuis quelques années avec le concours d'acteurs régionaux et internationaux. En effet, en 2017, Niamey avait mis en place un mécanisme d'évacuation d'urgence et de transit du Haut Commissariat aux réfugiés destiné à trier les demandeurs d'asile susceptibles d'être réinstallés en Europe contre une aide financière conséquente et non négligeable pour ce pays parmi les plus pauvres d'Afrique. Mais ces dispositifs mis en place pour contenir les migrations ont eu aussi des conséquences sociales néfastes pour une partie de la population, notamment cette population qui dépendait de l'économie du transport. Pour d'autres pays partenaires, ce système pose en outre des problèmes de politique intérieure. Le Maroc, par exemple, dont la diaspora en Europe dispose d'un poids politique important et qui souhaite par ailleurs mener une diplomatie africaine forte, prend de gros risques à jouer les gendarmes de l'Europe quant à la Turquie. Elle utilise, on le sait, depuis l'accord de 2016, la question migratoire comme un instrument de chantage, menaçant régulièrement de rouvrir ses frontières, comme ça a été le cas il y a quelques jours encore. Mais quels sont les intérêts de ces pays tiers? Comment participent-ils à la politique migratoire de l'Union et quelles conséquences politiques, économiques et sociales pour ces pays? Jusqu'où l'Europe peut-elle repousser ses frontières et peut-on espérer que ces États membres reprennent la main sur une gestion aujourd'hui très largement délégué. Pour ouvrir toutes ces questions, pour poser toutes ces questions, Mathieu Tardis, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur au Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. À vos côtés, Pascaline Chappard, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, post-doctorante à l'IRD. Le Niger, vous connaissez parfaitement bien, ça tombe bien, ça va vraiment être un cas d'école pour nous, un cas pratique pour comprendre justement comment l'Europe délègue sa politique migratoire. Et on va commencer tout de suite avec le Niger et peut-être avec vous, Pascaline Chappard. On dit depuis l'Union européenne que le Niger... C'est évidemment cette porte vers le Sahara, en particulier Agadez, c'est vraiment le hub depuis lequel partent les migrants vers l'Europe. Mais alors évidemment, il faut bien sûr dire que le Niger a peut-être ce site particulier, que c'est un pays, disons, relativement stable au regard des pays voisins. On pense évidemment à la Libye, mais aussi pourquoi pas au Mali ou au Tchad. Il y a évidemment cette dimension sécuritaire, mais cette représentation que l'on se fait ici du côté européen, elle a aussi été largement co-construite par le Niger lui-même, c'est-à-dire que, outre d'ailleurs les accords de l'Union européenne signé avec le Niger. En réalité, il faut bien comprendre que c'est un pays, ce Niger, qui depuis un certain temps se fait justement la figure de proue de cette lutte contre l'immigration, y compris d'ailleurs en prenant des réglementations, des lois propres qui sont tout à fait en dehors de celles des accords signés avec l'Union européenne.
Tout à fait, effectivement, on a entendu dans le reportage précédent le président Issoufou intervenir et évoquer la Valette. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que en amont de ce fameux sommet, le Niger, pour ratifier la convention de Palerme qu'il avait donc déjà adoptée, a édicté une loi sur le trafic illicite de migrants, qui a donc été adoptée en 2015, et qui vise donc à réprimer à la fois les personnes qui transportent et celles qui hébergent les migrants. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des centaines d'arrestations à la fois de personnes, de leurs véhicules qui ont été saisis, des ghettos qui ont été fermés. Et même si cette loi officiellement ne vise pas à criminaliser les personnes en cours de route, elle a quand même pour effet de les clandestiniser, vu qu'ils n'ont plus accès à ce transport aussi facilement qu'avant, de même que l'hébergement est rendu d'autant plus complexe.
Et surtout que, par ailleurs, cette lutte contre l'immigration illégale organisée par le gouvernement nigérien, il est aussi délégué, là encore, à d'autres acteurs plus ou moins affiliés. C'est pas toujours l'armée nigérienne, c'est pas toujours la police nigérienne qui participe de cette lutte. Il y a aussi des groupes armés dont on ne sait pas exactement quels sont ses liens directs avec l'État nigérien. C'est pas très clair.
Alors c'est pas très clair, vous évoquez des groupes armés, on peut ici évoquer l'armée française présente au nord du pays qui a déjà intercepté des personnes en cours de route vers la Libye par exemple, sachant que c'est pas du tout le mandat de l'armée française au Niger. Par ailleurs, dans le cadre des différents programmes qui ont été mis en place suite à la Valette, il y a eu un programme qui reproduit ce qui a été mis en place auparavant en Mauritanie, qui consiste, donc ça s'appelle l'équipe conjointe d'intervention et qui donc réunit des policiers espagnols, français et nigériens, justement pour essayer de lutter contre ces fameux réseaux de passeurs.
Mathieu Tardis, une fois qu'on a posé ce décor-là, il faut expliquer ce qu'il y a derrière l'accord entre l'Union européenne et le Niger. Que prévoit-il très concrètement, Mathieu Tardis ?
Alors, il n'y a pas un accord dans le sens où il y a un texte précis qui lie l'Union européenne, donc 28 États membres.
Il y a un principe de coopération quand même.
Il y a un principe dit de partenariat. Mais ce partenariat, ou ces principes de partenariat, parce qu'on ne concerne pas uniquement le Niger, c'est pas nouveau non plus. Ça date du début des années 2000, où l'Union européenne a voulu adjoindre à ce qu'on appelle la dimension interne des politiques d'asile et d'immigration une dimension externe. Alors c'est surtout en 2004 avec le programme que l'on a appelé le programme de La Haye où on a essayé de rendre un peu plus cohérent finalement les politiques d'accueil et de gestion des flux migratoires sur le territoire européen avec nos relations avec nos pays tiers.
Et il y a quand même une nouveauté, pardon, en 2015, c'est l'instauration d'un fonds fiduciaire, justement, pour ces pays qui participent de cette lutte contre
l'immigration. Il y a deux nouveautés, à mon sens, en 2015. Ouais. C'est-à-dire qu'on reste sur les mêmes principes et sur le donner plus pour recevoir plus, c'est-à-dire qu'on demande finalement à ces pays de coopérer et d'appliquer nos priorités, si ce n'est nos politiques, mais en tout cas nos priorités migratoires, et en échange des facilitations de visa pour leurs ressortissants. Donc là, les nouveautés à mon sens de 2015, c'est que l'immigration, ça vous a pas échappé, est devenu le sujet sensible au sein de l'Union européenne. Et donc, il y a une pression politique. C'est-à-dire que là, on a vu Emmanuel Macron, Angela Merkel aussi se rendre dans ces pays pour discuter avec leurs homologues africains, pour ce qui est de l'Afrique, mais on pourrait parler de la Turquie, qui est aussi un cas d'école, pour parler de migration. C'est une pression politique qui est assez importante. C'est-à-dire que les services diplomatiques de l'Union européenne, en tout cas l'embryon de services diplomatiques de l'Union européenne et les services diplomatiques des États membres, se sont mis au service de ces politiques migratoires. En mon sens, c'est la première nouveauté de 2015. L'autre nouveauté, oui, c'est l'argent. Et ce fonds fiduciaire qui a été adopté à La Valette, qui était initialement prévu d'un montant de 3,6 milliards d'euros. Et donc là, on met aussi des moyens financiers conséquents pour la mise en œuvre de ces priorités de l'Union européenne.
Et combien ça rapporte au Niger ? Chaque année, combien le Niger touche pour participer à la lutte contre l'immigration ?
Parce qu'il y a une
Je vous en prie.
Prendre sa calculatrice et voir l'ensemble des fonds alloués autour de ces questions-là, c'est un peu complexe. Mais si on s'intéresse après juste uniquement dans le cadre du fonds fiduciaire d'urgence qui vient d'être évoqué, le Niger a touché plus de 280 millions d'euros.
Sur une année ?
Depuis le début 2015. De la mise en place de ce fonds. Ce à quoi il faut ajouter après tous les différents programmes de coopération de chaque État membre de l'Union européenne, mais aussi par-delà, parce que c'est un enjeu global.
Monsieur Derdis.
280 millions d'euros ont été destinés à des projets mis en œuvre au Niger. C'est pas forcément le Niger, les autorités nigériennes qui vont.
C'est pas l'État nigérien qui touche l'argent.
On n'est pas dans le cadre, même si c'est de l'argent qui vient principalement à 90% du Fonds européen pour le développement, on n'est pas dans la mise en œuvre de fonds pour le développement. C'est-à-dire qu'il y a des principes, ce qu'on appelle les principes de Paris. C'est-à-dire que c'est pas de l'appui budgétaire et structurel aux autorités nigériennes, c'est du financement sur projet. Et les projets sont souvent montés et mis en œuvre par les agences européennes de développement, comme l'AFD pour la France, qui est très présente au Niger et dans beaucoup de pays africains, du fait de nos liens avec l'Afrique.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'en réalité, les fonds qui sont débloqués reviennent par d'autres canaux à des acteurs européens ?
Ils sont mis en œuvre par des agences européennes principalement, mais aussi des organisations intergouvernementales comme le HCR et l'OIM. L'OIM qui est le principal récepteur de fonds européens.
On va reparler de l'OIM.
Et puis quelques ONG. À ma connaissance au Niger, il y a uniquement l'autorité, la haute autorité
de la consolidation de la paix.
Voilà, qui est un petit projet justement sur le nord du pays.
Parce que Nishapa, vous vouliez réagir, et puis ensuite je voudrais simplement qu'on regarde peut-être les conséquences sociales de cette évolution, mais je vous en prie d'abord.
Juste pour revenir un peu sur justement ces fonds européens qui donc sont attribués dans une large mesure aux agences de coopération européenne. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a une dimension de conditionnalité, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fonds qui sont attribués. Et les fonds sont versés si et seulement si le Niger met en œuvre certaines politiques. Donc ça peut être par exemple la construction d'un certain nombre de postes frontières, par exemple. Et après, pour revenir sur donc cette haute autorité pour la consolidation de la paix, qui a été jusqu'à présent la seule institution nigérienne à obtenir des fonds, il faut bien dire que c'est le projet qui a obtenu la plus petite somme de tous les fonds alloués au Niger, et que ce projet visait en fait à la reconversion des passeurs, donc autrement dit à faire en sorte qu'ils changent d'activité.
Et ça a fonctionné ?
Disons que les fonds qui ont été alloués ne correspondent pas aux attentes de personnes qui gagnaient beaucoup plus avant qu'aujourd'hui les fonds qu'on leur propose pour mettre en place une boulangerie, un petit commerce, un taxi.
Essayez de nous faire sentir, Pascaline Chappard, ce que ça a changé concrètement sur le terrain. Parce que quand on décide comme ça de lutter contre l'immigration, c'est toute l'économie du transport qui s'en trouve bouleversée sur le terrain. Or, c'est le principal secteur en réalité. Si on regarde dans la région d'Agadez, le transport, c'est le cœur de l'économie. Qu'est-ce que ça a modifié ?
Alors, ce que ça a modifié, c'est que ça a mis des centaines, voire même plus de 6000 personnes au chômage dans un contexte de précarisation renforcée, avec la fermeture des mines d'or plus au nord, du Djado par exemple, mais aussi la mise au chômage de personnes qui travaillaient dans les mines d'uranium dans la région. Donc effectivement, ça crée des tensions, ça met des milliers de jeunes au chômage et ça complique énormément la situation.
D'autant qu'en plus, il y a quelques années, le gouvernement nigérien précisément poussait les acteurs à rentrer dans cette économie du transport. Et voilà qu'on leur dit aujourd'hui qu'il faut faire marche arrière, qu'il faut se reconvertir dans d'autres secteurs.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, ce qui provoque une grande très très forte, il y a beaucoup de colère sur ce point-là.
Il y a énormément de colère, et puis surtout que la politique a été ciblée sur la zone d'Agadez, et que effectivement, comme vous le rappelez, le fait de développer le transport, donc à la base touristique, mais aussi pour les migrants, faisait partie des mesures de réinsertion des anciens rebelles Touareg.
Mathieu Tardis, vous voulez réagir ?
Oui, et je pense que d'autres aussi impacts de cette politique, c'est qu'on a observé donc aussi un transfert d'une économie quasi formelle du passage vers une économie qui est beaucoup plus criminelle, parce que les migrants continuent à passer par Agadez, et au lieu de passer par des jeunes qui ont des voitures, ils vont passer par des personnes qui sont beaucoup plus dans l'économie informelle, voire criminelle, de trafic, de drogue, d'or, qui est en pleine boom dans cette région du Sahel. Donc, et du coup, le prix du passage a augmenté, a fortement augmenté, a été multiplié par 6 depuis 5 ans. Et les dangers sont beaucoup plus importants et on trouve de plus en plus de corps aujourd'hui dans le désert.
Alors, il y a peut-être... il y a un téléphone qui crépite, je ne sais pas lequel c'est, mais peut-être écartons-le des micros pour que ça soit plus agréable pour l'auditeur. Je reste avec vous, Mathieu Tardis. Si on regarde maintenant le bilan de cet accord, alors d'accord, c'est pas un accord, mais ce principe de coopération avec le Niger, quel effet sur les flux migratoires? Très concrètement, entre 2005 et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, et dans quelle proportion cela a diminué les flux de migrants?
Alors, l'indicateur qui va être utilisé par l'Union européenne, par les États membres, c'est l'indicateur d'arrivée sur les côtes européennes. Donc là, ce qui concernait plutôt, c'était les arrivées en Italie. Donc, ces arrivées en Italie ont fortement chuté. Je suis pas totalement persuadé qu'il y a un lien direct entre cette politique au nord du Niger et au sud de la Libye avec les arrivées en Italie, puisqu'il y a aussi tout ce qui se passe en Libye et particulièrement le rôle de plus en plus important des gardes-côtes libyens en Méditerranée, parce que c'est aussi ça qui a fait qu'il y a eu moins d'arrivées en Italie. Ensuite, quand on regarde les indicateurs au nord du Niger et au sud de la Libye, enfin, si on prend notamment les indicateurs de l'OIM, encore une fois, après ils sont ce qu'ils sont. Mais déjà, ce qui est surprenant, c'est que quand on regarde les nationalités qui prennent ces routes au nord d'Agadez, c'est à 90% des Nigériens. Donc les Nigériens sont les premières victimes de ces politiques-là, sachant que les Nigériens ne viennent pas en Europe.
Ils vont où?
Ils vont en Libye, beaucoup, en Algérie. Ils vont aussi plutôt plus au sud, dans le golfe du Guinée. Donc on est dans une migration circulaire, qui est très traditionnelle et très importante.
Intra-africaine.
Intra-africaine, qui est nécessaire pour un pays qui est le deuxième pays le plus pauvre du monde, qui connaît des crises alimentaires assez fréquentes. Donc ces migrations circulaires et intra-africaines, elles sont vitales pour ce pays. Et donc là, on a créé une présomption d'irrégularité des Nigériens sur leur propre territoire, mais aussi, et ça je pense que c'est un autre effet peut-être sur lequel il faut que les Européens en fassent attention, c'est qu'on est dans un espace de libre circulation. C'est-à-dire que beaucoup de ressortissants d'Afrique de l'Ouest, ils ont aussi une liberté de circulation sur le territoire nigérien, dans l'espace de CDAO, et il y a aussi des accords de libre-échange avec un pays comme le Nigeria. Et ça, c'est toute une économie, des dynamiques migratoires locales qu'on est en train de remettre en cause, et ça va avoir des effets secondaires de déstabilisation sur une région qui n'en a vraiment pas besoin.
Pascaline Chappard, vous avez vu, vous, sur place, justement, comment on est en train de s'en prendre et d'effriter ce principe de la libre circulation dans cet espace ouest-africain.
Oui, effectivement, il y a de plus en plus de refoulements aux frontières. Les gens changent leurs pratiques, c'est-à-dire que des personnes, des ressortissants de l'espace CDAO qui sont parfaitement en situation régulière, contournent aujourd'hui les postes frontières pour justement pas avoir à déclarer leur objectif de monter vers la frontière nord. D'autres se déguisent en commerçants pour justement se fondre un peu dans le flux des voyageurs et essayer en fait de passer discrètement. Ça morcelle effectivement les parcours, ça les rend d'autant plus chers et coûteux et dangereux, et ça a globalement pour effet, oui, de perturber toutes les dynamiques migratoires au Niger et le système migratoire nigérien. C'est-à-dire que les gens effectivement, comme cela a été dit, les Nigériens, enfin, il y a un système migratoire nigérien saisonnier qui est indispensable, qui est complètement relié au système agro-pastoral et qui, en fait, est pour que le système agro-pastoral fonctionne, il faut qu'il y ait migration.
Mathieu Tardis, vous vouliez réagir, et puis ensuite on va introduire les acteurs internationaux qui participent à tout ça, et je pense notamment au HCR et à l'OIM justement que vous avez déjà évoqué. Mais Mathieu Tardis, je vous en prie.
Oui, peut-être un élément complémentaire sur les résultats de cette politique. Si on prend les résultats qui sont attendus par l'Union européenne, c'est-à-dire la baisse des arrivées irrégulières sur les côtes européennes, il faut aussi se rendre compte que la majorité des flux vers l'Union européenne ne viennent pas d'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, dans les arrivées en Italie, c'est un quart de Tunisiens. Dans les arrivées en Espagne, on est sur un nombre de plus en plus important de Marocains. Donc on traite ces pays comme des pays de transit, alors que ce sont les principaux pays d'origine, y compris, et vous l'avez signalé, d'origine des personnes d'origine étrangère sur le territoire européen, notamment le Maroc, qui est un pays important, avec une diaspora importante dans l'Union européenne, en France, mais pas uniquement en France. Donc il y a une sorte d'obsession africaine, d'Afrique subsaharienne, qu'il faut expliquer, mais l'Union européenne se trompe peut-être aussi de cible. Si je veux faire mien des objectifs de l'Union européenne, qui sont de réduire les flux migratoires, on se trompe de cible et on crée une déstabilisation complémentaire de ce continent, de cette région, le Sahel, et en plus en mettant au même niveau la question migratoire, de développement et sécuritaire, et qui est une question qui nous concerne aussi les Européens en termes de...
C'est peut-être parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre outil. Vous citiez par exemple le Maroc et la Tunisie. En réalité, on n'est pas en capacité de lutter contre la migration marocaine et tunisienne.
Mais pourquoi,
ou
par
en
exemple,
tout cas que les États concernés ne veulent pas coopérer sur
si
ce plan-là.
Si on prend ce fonds fiduciaire pour l'Afrique, donc il y a trois volets. Il y a un volet Afrique de l'Ouest, Afrique subsaharienne, Afrique Sahel, Afrique de l'Est et Afrique du Nord. Tous les projets qui concernent l'Afrique du Nord sont que des projets de gestion des flux migratoires. Il n'y a aucun projet de développement de Tunisie ou de Maroc pour empêcher, finalement, enfin pour dissuader les jeunes de quitter ce pays. Donc il y a une vraie, je pense, méconnaissance, malentendu ou peut-être obsession, à mon sens aussi, vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne, qui doit être un peu remise en question. Et je pense que c'est aussi le fait que ces politiques sont décidées par les ministères de l'Intérieur sur des affaires étrangères, donc prennent un peu, dominent un peu plus les affaires étrangères, parce que dans les gouvernements nationaux, finalement, les affaires intérieures ont beaucoup plus de poids, souvent, que les affaires étrangères. Et donc, on met en avant cette priorité migratoire dans un débat politique européen qui est extrêmement polarisé et souvent hystérisé. Et ça a un impact sur nos relations extérieures.
Est-ce que justement le fait que ça soit les ministères de l'Intérieur qui s'occupent de tout cela et qui est comme ça en ligne de mire, qui est cette obsession, pour reprendre votre terme, Mathieu Tardis, de l'Afrique subsaharienne et de la migration subsaharienne, est-ce que c'est pas le signe que en réalité cette politique, cette délégation de la politique migratoire, elle a d'abord et avant tout comme objectif d'envoyer un signal à sa propre opinion pour dire regardez, nous agissons sur ce versant-là, quitte à ce que d'ailleurs les résultats soient pas forcément au rendez-vous.
Oui, effectivement. Enfin, là, après, l'instrumentalisation de la question migratoire, c'est loin d'être quelque chose de nouveau en soi. Je pense qu'après, juste pour rebondir sur ce qui a été dit avant, je pense que ces représentations...
J'ai pas parlé, moi, d'instrumentalisation.
Non, c'est moi qui le dis.
Oui, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est juste pour dire que ça peut aussi être une réponse attendue de l'opinion, et d'une certaine manière, c'est toujours cette question de la sécurité. En réalité, il n'y a pas de sécurité ou d'insécurité. Il y a un sentiment de sécurité ou un sentiment d'insécurité, et que d'une certaine manière, répondre à cela, même si l'efficacité n'est pas au rendez-vous, c'est déjà une réponse politique. Voilà, on peut... Donc moi, je n'avais pas parlé d'instrumentalisation. Pascaline Chappard, je vous en prie.
Oui, donc du coup, oui, j'ai parlé d'instrumentalisation, enfin, au moins du coup de la politisation du sujet, mais comme on a parlé en 2015 de crise migratoire, alors qu'en fait, c'est une crise des politiques migratoires, et qu'après, il ne faut pas non plus se leurrer, l'instrumentalisation qu'on voit en Europe, on la retrouve aussi d'une certaine manière de l'autre côté. Enfin, je veux dire, la coopération est un enjeu en tant que tel, mais des deux côtés des frontières, donc aussi bien en Europe que pour le Niger. Et juste pour finir, vraiment sur cette question de représentation d'un espace de transit et comme quoi il y a un décalage entre les représentations mises en avant et la réalité dans l'espace, dans le territoire nigérien. Ce qu'on dit jamais dans les discours qu'on entend sur le Niger, c'est qu'on parle jamais des milliers de personnes qui sont expulsées d'Algérie au Niger, même s'ils ne sont jamais passés par le Niger. Et on parle non plus très peu de tous les réfugiés ou déplacés qui sont accueillis actuellement au Niger.
Alors justement, on va y venir, mais Mathieu Tardis d'abord.
Oui, peut-être aussi pourquoi aujourd'hui il y a un tel focus de l'Union européenne sur le Niger ou sur d'autres pays de cette région-là. C'est aussi parce qu'il y a un blocage institutionnel en Europe. Enfin, c'est l'incapacité de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne, à décider d'une politique commune d'asile et d'immigration, qui fait que on a déplacé le cœur de cette politique vers les pays tiers, parce que tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire bon, au moins il faut arrêter les flux vers l'Union européenne, et c'est beaucoup plus facile aussi de mettre en place des mesures qui peuvent être contestables au regard de protection des droits des êtres humains en dehors de notre territoire. Donc la raison première, c'est que ici, en Europe.
C'est blocage interne.
On est blocage interne. D'ailleurs, on peut faire le parallèle avec les États-Unis, parce que je pense que c'est aussi ces blocages institutionnels qui fait que le cœur aussi de la politique migratoire américaine se déplace de plus en plus en dehors des frontières américaines.
Et on va regarder dans quelques minutes si les choses ne sont pas en train justement de revenir au cœur de l'Europe, parce qu'il y a un certain nombre d'avancées en la matière. On va voir si réellement on peut en attendre quelque chose et quoi. Mais d'abord, Pascaline Chappard, je disais, il faut s'intéresser un tout petit peu aux acteurs internationaux qui participent de cette délégation de la politique migratoire de l'Europe. Il y a notamment le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, qui participent de ce mécanisme d'évacuation d'urgence et de transit vers le Niger qui a été mis en place en 2017. Il faut peut-être qu'on comprenne le rôle précisément du HCR là-dedans. Et puis il y a également l'Organisation internationale des migrations dont vous avez parlé vous tout à l'heure, Mathieu Tardis. Il faut aussi comprendre son rôle. Vous pouvez nous expliquer tout ça, Pascaline Chappard? Que font ces deux acteurs internationaux dans tout cela?
Pour revenir sur le rôle du HCR, le HCR est au Niger depuis 2012 à peu près pour, à la base, fournir une assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées qui sont accueillies au Niger. Donc à la fois les réfugiés maliens, les réfugiés nigérians, les déplacés de ces deux pays et aussi les déplacés internes, puisque les conflits qui en gros cernent le Niger ont un effet à l'intérieur de son propre territoire. Depuis 2017, suite à la médiatisation de la situation dans les prisons libyennes, et on peut parler notamment de l'effet du reportage CNN, oui, qui a un peu bousculé les agendas internationaux, il a été décidé de mettre en place ce fameux mécanisme d'évacuation d'urgence avec le HCR, mécanisme qui, avant d'être mis en place, était déjà en cours de négociation. On se souviendra aussi peut-être des interventions d'Emmanuel Macron avec d'autres présidents ou d'autres membres de l'Union européenne sur l'idée d'organiser des missions pour justement faire en sorte que les personnes en besoin de protection en Libye ou au Niger soient accueillies en Europe. Donc ce premier mécanisme concernant le HCR a été mis en place en 2017 et vise très simplement à évacuer certaines personnes appartenant à cette nationalité, donc éthiopiens, érythréens, somaliens, soudanais du Darfour, irakiens, syriens et palestiniens, à être évacués vers le Niger pour en vue d'une réinstallation en Europe ou dans d'autres pays du Nord, par exemple le Canada et les États-Unis. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le contexte dans lequel a été mis en place ce mécanisme, donc à partir de la fin 2017, c'est que il y a eu une forte médiatisation sur ce mécanisme et l'ouverture d'une réinstallation à partir du Niger vers l'Europe. Mais dans le même temps, justement, l'OIM a également vu ses fonds s'accroître énormément pour faciliter ce qu'elle appelle les programmes de retour volontaire assisté depuis la Libye vers les pays d'origine des personnes en question. Peut-être pour préciser aussi un peu plus particulièrement le rôle de l'OIM au Niger, donc elle s'y est installée depuis 2006 et son rôle, on va dire au moins depuis 2015, a considérablement explosé. Juste pour préciser, par exemple, depuis 4 ans, elle a mis en place ce qu'elle appelle son unité de gestion des frontières. Depuis sa création, elle gère actuellement un budget de 14 millions de dollars pour créer des postes frontières, les équiper de technologies et notamment en termes de biométrie, et puis renforcer plus globalement le rôle de la police ou d'autres acteurs.
Mathieu Tardis, sur ces deux acteurs, le HCR et l'OIM, avec les mécanismes respectifs que sont celui du HCR d'évacuation d'urgence et de transit vers le Niger, et concernant l'OIM, ces procédures de retour volontaire. Alors peut-être faut-il mettre des guillemets d'ailleurs, parce que ces retours sont-ils toujours volontaires, je ne sais pas. Mathieu Tardis.
Alors le mécanisme d'évacuation des réfugiés de la Libye vers le Niger, donc comme un hub de transit, et fait partie vraiment du cœur de cette nouvelle politique que l'Union européenne veut mettre en place. Donc tout ça aussi est fait sur des fonds européens. Elle est nécessaire parce que le HCR considère certainement à juste titre que la Libye ne peut pas être un pays d'asile pour les réfugiés. Là aussi, il y a des mots et après, ensuite, il y a les chiffres, il y a les actes. Là, depuis le début de ce mécanisme, on est à pratiquement 4500 réfugiés qui ont été évacués de Libye, dont près de 3000 vers le Niger. Et ensuite, en termes de réinstallation, on est sur des chiffres inférieurs. Donc on est sur quasiment 2000 réfugiés qui ont été réinstallés vers du Niger, vers des pays de l'Union européenne, le Norvège, le Canada.
Pour ceux qui sont du coup accueillis au Niger, dans quelles conditions ils sont accueillis?
Ils sont, alors, là, peut-être Pascaline saura mieux que moi, parce qu'elle était sur le terrain dernièrement.
Pascaline Chappard, et puis je vous rends la parole ensuite. Pascaline Chappard.
Alors, au début du projet, les personnes étaient accueillies dans différentes villas, des cases de passage dans la capitale nigérienne, donc dans la ville de Niamey. Et de plus en plus actuellement, ce qui se passe, c'est que ces cases de passage sont utilisées pour les personnes dites les plus vulnérables, donc ont des problèmes de santé, par exemple, les femmes enceintes ou ce genre de vulnérabilité, tandis que tous les autres sont hébergés dans un camp qui est à une quarantaine de kilomètres de Niamey. Donc c'est sur un plateau. Ils sont hébergés dans des petites maisonnettes en plastique construites par Ikea et ils sont complètement isolés justement du cœur de la ville et de ce que justement de enfin les personnes qui étaient avant en centre-ville qui se retrouvent aujourd'hui isolées à 40 kilomètres de Niamey, c'est très compliqué, ne serait-ce que pour les démarches, pour justement enfin on sait tous que parmi les personnes évacuées, un certain nombre seront sans doute pas réinstallées. Enfin, en termes d'intégration, d'accueil, c'est assez problématique.
Mathieu Tardis.
Et pour le gouvernement, ces réfugiés-là n'ont pas vocation à rester au Niger. Parce que par ailleurs, à ma connaissance, le Niger a une politique plutôt ouverte sur les réfugiés maliens ou nigérians. Reconnaissance de titre de séjour, il y a des programmes d'habitation aussi qui sont mis en place. Mais pour l'accord qu'a donné le Niger, c'est ok, on les accueille pendant quelques temps sur notre territoire avant d'être réinstallés dans un autre pays. Et donc là, la machine bloque, on n'est pas sur des chiffres extrêmement importants. Je vous disais, c'est 2000 réfugiés qui ont été réinstallés depuis la fin 2017, donc en un an et demi. Et ce qui a finalement aujourd'hui abouti à ce que le Niger soit beaucoup plus réticent à accueillir. Et là, on voit depuis la semaine dernière d'autres pays africains qui proposent d'accueillir des réfugiés. C'est le cas du Rwanda, qui a accueilli cette semaine 66 réfugiés qui étaient en Libye, avec la même idée de pouvoir ensuite les réinstaller dans un pays du nord occidental.
Alors justement, je voudrais qu'on en vienne, Mathieu Tardis, à l'Europe, ramener un peu tout ce débat sur notre propre territoire, puisqu'en juillet dernier, les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de l'Union européenne étaient réunis à Paris. Il y a un accord qui a été signé pour la création d'un mécanisme de solidarité européen. Sur le perron de l'Élysée, Emmanuel Macron a expliqué que cet accord trouvé entre 14 membres de l'Union européenne était peut-être une rupture, ou en tout cas promettait des avancées. Il y a plus récemment, c'était la semaine dernière, un autre accord à quatre cette fois, France, Allemagne, Malte et Italie, qui se sont entendus sur des principes de répartition des migrants secourus en Méditerranée. Est-ce que vous avez le sentiment, je vais commencer avec vous Mathieu Tardis, que quelque chose est en train de se passer en Europe et que peut-être précisément c'est le début de la fin de ce phénomène de délégation de la politique migratoire?
Non, je pense pas. Mais il y a toujours des arrivées en Europe, même si elles sont à mettre dans un contexte et elles sont pas si importantes. Elles ont des effets politiques. En tout cas, il y a, je pense, aussi une instrumentalisation politique de cette question-là. L'Italie est l'exemple le plus important, le plus marquant. La Hongrie aussi sont deux exemples assez importants sur l'instrumentalisation politique de la question migratoire. Donc, je pense pas que ce soit à la fin de cette politique.
J'ai dit le début de la fin.
Pour nuancer. Ni le début de la fin. Je pense que c'est pas le début de la fin.
Donc c'est des accords pour rien.
Non, c'est des accords qui, on va voir. Enfin, c'est un premier pas, ce qui est aussi dû à fait que Matteo Salvini n'est plus au gouvernement italien, donc il y a une petite brèche qui s'ouvre. Combien de temps elle va s'ouvrir, c'est la question, certainement. Et puis, est-ce que les autres pays de l'Union européenne vont accepter cet accord? Et puis après, sur l'accord en soi, l'accord de la semaine dernière, hein, qui je pense que celui qu'il faut regarder entre les quatre États membres, donc Malte, Italie, France et Allemagne, faut voir le contenu de l'accord. Il est encore assez vague. Il y a toujours cette question qui reste un peu en suspens de qu'est-ce qu'on fait déjà gens qui sont pas répartis, et deux, qui ont réparti Un pays comme la France ne veut prendre que des réfugiés, des personnes éligibles au statut de réfugié, mais tous les migrants qui sont sur ces bateaux d'ONG, parce qu'on parle de cela, sont pas forcément éligibles au droit d'asile. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? On les laisse en Italie, on les laisse à Malte. Et puis, je dirais qu'il y a un autre enjeu. Il y a ce qui se passe en ce moment en Grèce. Parce que finalement, l'Italie aujourd'hui est le pays qui reçoit le moins, enfin en tout cas, il y a le moins d'arrivées sur les côtes comparé à la Grèce, où c'est reparti à la hausse. Rien de comparé à 2015, mais quand même, la situation est très préoccupante.
Et Athènes demande une aide rapide de Bruxelles.
Mais Athènes demande une aide rapide de Bruxelles qui le demande depuis longtemps. Il y a aussi un changement de gouvernement en Grèce avec des mesures extrêmement restrictives qui sont adoptées et qui vont pas régler la situation, qui vont l'empirer, qui vont empirer la situation humanitaire et donc du coup les drames et donc va empirer aussi cette crise européenne, cette crise politique européenne.
Pascal Nchappar, est-ce que vous avez le sentiment que finalement les blocages sont toujours là et que malgré les accords qu'on peut avoir, c'est là à la fois celui de la semaine dernière avec ces 4 États membres mais aussi celui de juillet dernier avec ces 18 États membres dont 8 actifs seulement, hein, précisons pour l'accord de juillet, finalement c'est de la poudre aux yeux et rien ne va changer, on ne voit pas de perspective d'accord interne pour gérer cette question-là.
Moi j'ai plutôt l'impression que justement tous ces petits accords très flous, très en marge du droit international ne font que perpétuer une espèce de fuite en avant vers la déresponsabilisation des États européens, mais c'est aussi une façon de mettre en scène ce qu'on n'a pas envie de voir à nos frontières et comme cela vient d'être dit, ce qui se passe en Grèce, la situation en Grèce est complètement explosive, quoi. Les camps sont saturés, c'est intenable et je pense que ça fait partie de ces petits
arrangements. J'entends bien, mais comment on fait, Pascal Nchappar, ça fait des années qu'on n'y arrive pas. Qu'on est incapable à 28, bientôt 27, de se mettre d'accord sur ces questions de politique migratoire, est-ce que c'est pas la bonne solution que de commencer par créer un petit noyau à partir duquel peut-être demain on essaiera d'étendre la solidarité européenne? Il y a quoi d'autre comme solution?
Eh bien, la solution, ça serait déjà de respecter le droit international. De prendre en considération la situation en Libye. Enfin, vu du point de vue du Niger, la situation en Libye est catastrophique et en partie due à l'action de l'Union européenne. Je pense qu'il y a des dimensions géopolitiques très fortes derrière ces questions-là qu'on tend à minimiser ou justement à réduire à une pure question migratoire alors que ça va par de là.
Mathieu Tardis.
Certainement qu'aujourd'hui, avec les blocages politiques au sein de l'Union européenne entre les États membres, peut-être que la question des coopérations renforcées entre certains États membres peut permettre d'avancer sur ce dossier. Après, là où moi je suis, j'ai beaucoup plus de doutes et finalement d'inquiétudes, et sur le contenu de ces coopérations renforcées et le cadre de ces coopérations renforcées. Le droit international existe, le droit européen existe. Si on est arrivé à cette situation-là, c'est parce que déjà les États membres n'appliquent pas le droit européen, sans même parler du droit international. Les règles que les États membres ont eux-mêmes adoptées. Donc moi, ce qui m'inquiète... finalement aussi pour l'avenir de l'Union européenne, du projet européen, parce que je pense que c'est ça aussi qui est en jeu ici, c'est que là on est dans un processus de désintégration de l'Union européenne. On passe par des règles dérogatoires, on passe à côté des règles de l'Union européenne en termes de standards d'accueil, de dignité des êtres humains, en adoptant des normes ou des accords qui se font à côté, finalement, des institutions européennes. Le Parlement européen est complètement exclu de tout ça, y compris des questions financières, du fonds fiduciaire, parce que c'est pas un fonds européen en soi, c'est un fonds fiduciaire. La Commission est de plus en plus délégitimée. Finalement, la Commission Juncker a essayé de politiser peut-être cette question-là et de se politiser pour pouvoir... s'investir, se mobiliser et être beaucoup plus garant des traités du droit européen.
A priori, on ne va pas vers une dépolitisation de la Commission sur ce sujet. Vous avez vu l'intitulé du portefeuille du grec Margaritis Chinas qui va justement s'occuper du dossier migratoire. L'intitulé, c'est « Protection de notre mode de vie européen ».
Je pense que la commission qui arrive sera une commission uniquement technique et qui va mettre en œuvre les décisions de l'Union européenne, qui est le rôle de la commission, mais de manière beaucoup plus technique, c'est-à-dire mettre à disposition les fonds, parce que finalement le seul levier d'action de l'Union européenne, c'est l'argent, et va mettre en œuvre ce que les États membres, ou quelques États membres, parce que c'est aussi ça le fait de passer à côté des procédures européennes, c'est-à-dire que ce sont les plus forts qui vont décider.
On est avec vous, Mathieu Tardis, et vous, Pascaline Chappard, dans cette semaine consacrée aux frontières de la colère. Aujourd'hui, accord migratoire, les nouvelles portes de l'Europe. Alors, il y a cette délégation, évidemment, vers des pays tiers, mais il y a aussi la délégation de la politique migratoire à des acteurs tiers et des acteurs privés, en l'occurrence. On va en parler tout de suite.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Lorsque j'ai fait ma demande d'asile, je leur ai raconté ce que j'avais subi et comment j'avais été torturé, comment ils m'avaient menacé avec un couteau. Un docteur a examiné mon corps de la tête aux pieds, il a compté toutes les marques sur mon corps et ils ont écrit au ministère de l'Intérieur pour dire que oui, mon histoire corrobore le fait que j'avais bien reçu des coups de couteau sur mon corps. Le ministère de l'Intérieur a répondu que oui, ils avaient bien vu les stigmates sur mon corps, que j'avais bien été torturé, mais qu'ils allaient devoir me garder là, dans ce camp. Parfois, vous appelez les gardiens, mais ils vous imitent. Ils se moquent de vous. Ils vous brutalisent ici, dans le centre de détention. Par deux fois, j'ai essayé de me suicider en détention parce que c'est presque pire que ce que j'avais vécu auparavant. J'ai l'impression de revivre mon histoire.
Voilà, ce témoignage, il fait écho à une situation qui se déroule non pas dans un centre de détention en Libye, comme on pourrait le penser, mais bien sur le sol britannique, dans un centre géré par une entreprise britannique qui s'appelle G4S, qui est une entreprise qui, d'ailleurs, la semaine dernière, annonçait se retirer du marché de la détention de migrants au Royaume-Uni à la suite de dénonciations d'abus et autres violences dans le centre de rétention de l'aéroport de Gatwick à Londres. C'est un leader mondial dans le secteur. G4S va désormais se concentrer sur le secteur des prisons, en tout cas pour ce qui est de la Grande-Bretagne. Bonjour Lydie Arbogast.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable des questions européennes à la CIMAD, cette association d'aide aux migrants, et vous êtes membre de la fondation Rosa Luxembourg. Sur le cas de G4S, est-ce qu'on peut espérer que les pouvoirs publics britanniques vont reprendre la gestion des centres de migrants dans lesquels il y a eu des abus et des violences, ou est-ce que ce qui va se passer, c'est qu'une autre société privée va récupérer le marché ?
Alors... A priori, non. Je ne pense pas que l'État britannique reprenne le contrôle, puisque c'est la privatisation des centres de détention pour personnes migrantes au Royaume-Uni, elle est très ancienne. Hein. Le gouvernement, il a confié la gestion des deux premiers centres de détention à la société de sécurité privée Securicorps, qui est en 1970. Donc, c'est un mouvement qui est très ancien. Mmh. Et aujourd'hui, à part deux centres de détention, l'ensemble des centres de détention au Royaume-Uni sont gérés par des multinationales de sécurité privée, parmi lesquelles G4S, mais également Géogroup, Mighty, Serco, Tascor.
Ces cas de violence, d'abus, de dérive, est-ce que c'est marginal ou est-ce que, en réalité, ce sont des cas qui sont plus fréquents qu'on peut le penser? Et la deuxième question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on peut établir un lien entre la privatisation de ce secteur et les niveaux de violence?
Alors, c'est pas du tout un cas marginal. Parmi les cinq sociétés, les multinationales de sécurité privée qui gèrent des centres de détention au Royaume-Uni, toutes ont été ciblées pour des cas accusés de mauvais traitements ou des failles de sécurité à divers moments. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la privatisation de ces centres et les violences? Bon, les situations de violation des droits et de violence ne sont certes pas l'apanage des centres gérés par des sociétés privées. Il peut y en avoir également dans des centres qui sont gérés par l'administration publique. Par contre, effectivement, on peut tout à fait tirer le constat selon lequel, à partir du moment où on confie la gestion d'un centre de détention à une entreprise privée qui cherche à maximiser ses coûts et qui recherche le profit, elle ne va pas avoir une considération aussi forte que l'aurait l'État ou une structure d'intérêt général pour la protection des droits.
En 2016, Lydie Arbogast, vous aviez... Pardon, je vous en prie, poursuivez.
Oh, excusez-moi.
Je vous en prie.
Sachant qu'on est déjà dans un système de privation de liberté qui entrave les droits des personnes par essence.
En 2016, je disais, vous aviez participé à un rapport sur la pratique de délégation à des entreprises privées de centres migratoires, la détention des migrants dans l'Union européenne, un business florissant, c'était le titre du rapport. C'est un phénomène très répandu en Europe.
Alors oui, on avait fait trois études de cas dans ce rapport pour étudier trois formes et niveaux de privatisation très différents, parce que on parlait du Royaume-Uni où la gestion des centres est totalement déléguée à des multinationales de sécurité privée. On a d'autres formes de privatisation où on va sous-traiter seulement certains aspects de la gestion des centres à des acteurs privés, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'ONG, par exemple la construction, la restauration, le nettoyage, l'accueil, l'accès aux droits des personnes. Donc on présentait également le cas de l'Italie, qui a un système un peu hybride, avec tout l'aspect identification des personnes, surveillance qui est assurée par l'État, mais l'aspect accueil, restaurant, nettoyage, etc., des détenus, soutien psychosocial, santé, qui est assuré par des coopératives sociales. Et par ailleurs, on présentait également le camp de la France, le cas de la France, par contre, excusez-moi, où les centres de rétention administrative sont totalement une affaire publique sous la direction du ministère de l'Intérieur. Mais on a une délégation de la mission d'aide à l'exercice effectif des droits à des associations, dont la CIMAD, et on a par ailleurs toute une myriade d'entreprises privées qui profitent des retombées économiques des CRA à travers les activités que sont le nettoyage, la restauration, la construction, l'extension des centres de rétention également.
Alors justement, là vous nous expliquez, prenons ce cas-là, Lydie Herbogast, on a trois cas, trois modèles, plus avec une participation plus ou moins forte au fond des acteurs privés, Grande-Bretagne, Italie et France. Est-ce que avec ces trois modèles, on peut dire quelque chose s'agissant des liens entre la délégation à des acteurs privés et les abus, les dérives, les violences. J'imagine que ça doit apparaître dans ce cas.
Oui, tout à fait. Bah, si vous voulez, en général, ce sont des motifs économiques qui sont invoqués pour justifier la délégation de la gestion ou de certains services qui sont liés au fonctionnement des centres, dans la mesure où elle permettrait de réduire les coûts étatiques qui sont supposés plus élevés pour l'État quand ce seraient des fonctionnaires qui seraient assignés à ces missions. Et de plus, les appels d'offres de marché public qui concernent ces délégations de services, qui sont régulièrement renouvelés par les États, ils font l'objet d'une concurrence croissante entre les acteurs qui y répondent, qu'on parle d'ONG ou d'entreprises. Donc le résultat, c'est une tendance globale à la diminution des sommes qui sont allouées au fonctionnement de ces centres. Et donc cette course à la réduction des coûts pour l'État d'une part, à la maximisation des profits pour les acteurs privés contractants d'autre part, elle impacte nécessairement la qualité des conditions de vie et des services qui sont mis en place dans ces centres. Donc on peut effectivement faire un lien direct. Pour des associations comme la nôtre qui sont sur une mission d'aide à l'exercice effectif des droits, on est vraiment dans une logique de défense des droits. Donc la problématique, c'est pas forcément que cette mission elle soit déléguée à une association, c'est vraiment les conditions du marché public qui sont importantes, c'est-à-dire quels moyens l'État accorde à ces associations pour mettre en œuvre leur mission dans les meilleures conditions.
Est-ce qu'on a une idée de ce que représente ce marché, puisqu'il s'agit d'un marché en Europe, et de ce que ça rapporte à ces entreprises ?
Alors, de façon globale, sur toute l'Europe, je n'aurais pas de chiffres à vous donner, sachant que ce sont des informations qui, par ailleurs, sont très difficiles à récupérer, le montant d'un contrat de délégation de services publics, etc. Pour vous donner un exemple sur le cas du Royaume-Uni, qui est le plus parlant avec une privatisation totale, on avait, à l'époque de ce rapport, recherché les montants globaux que représentaient ces contrats de délégation pour la gestion des centres de détention, mais aussi pour la gestion des escortes pour les expulsions. Et on avait donc le montant minimum des contrats, parce qu'on n'avait pas forcément trouvé tous les montants, de 2004 à 2022, c'était 780 millions de livres sterling pour la détention et l'expulsion.
Cette délégation, Lydie Herbogast, est-ce qu'elle est totalement décidée par les différents États membres, ou est-ce qu'il y a un cadre européen qui gère cette libéralisation de ce secteur-là avec des dispositifs de contrôle, des obligations pour les États membres ? C'est les États qui se débrouillent dans leur coin et qui font à peu près ce qu'ils veulent et qui gèrent leur délégation, ou il y a quand même un cadre commun ?
Alors il y a un cadre commun, il y a notamment la directive retour, la directive européenne sur le retour qui donne le cadre sur les procédures en matière de détention et d'expulsion des personnes en situation irrégulière sur le territoire européen, mais celle-ci, elle ne dit rien sur les services qui doivent gérer les centres de détention, par exemple. Elle laisse toute la latitude aux États, et puis les États transposent cette directive dans leur législation nationale, donc ils ont une grande liberté pour organiser l'enfermement des étrangers sur leur territoire comme ils le souhaitent. Elle fixe, par exemple, un délai maximal de détention qui est fixé à 18 mois, etc., mais elle ne rentre pas plus dans les détails sur la mise en œuvre opérationnelle de l'enfermement et des procédures d'expulsion.
Et est-ce qu'il y a des pays de l'Union européenne qui refusent précisément de déléguer cette gestion des centres pour migrants à des acteurs privés ?
Il y en a qui actuellement ne le font pas. Après, comme
Lesquels ?
Comme c'est le cas de la France, par exemple. Hein. Mais on se rend bien compte que sur certains aspects de la gestion du fonctionnement d'un centre, on a un processus de privatisation qui est à l'œuvre, comme c'est le cas sur d'autres services gérés par l'État par ailleurs.
Réaction avec nos invités ici en plateau, Mathieu Tardis, Pascaline Chappard, sur cette privatisation de la détention qui est l'autre externalisation de la politique migratoire finalement. Mathieu Tardis ?
Alors, c'est pas une question sur laquelle j'ai énormément travaillé. Je sais que c'est aussi une question qui est importante aux États-Unis sur les centres de détention et aussi un certain nombre de centres d'accueil. Ça montre que l'immigration est un marché pour tout le monde. Dans le contexte, je dirais peut-être plutôt français, la question, elle est aussi, bien sûr que c'est aussi un marché. Alors, l'immigration, l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés. Elle est également, pose aussi la question finalement de la relation entre les autorités et les organisations de la société civile, qui en France par exemple ont un rôle très important dans la question d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés. Ce sont les associations qui gèrent les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui ne sont pas des centres de rétention, ce sont des centres ouverts. Et aujourd'hui, cette relation qui s'est basée au début sur un partenariat dans les années 70, quand notre dispositif national d'accueil des réfugiés a été créé avec les réfugiés d'Amérique latine ou d'Asie du Sud-Est, elle devient de plus en plus une relation de sous-traitance pour des raisons contractuelles. On est dans des appels d'offres, on est de plus en plus dans les marchés, ce qui est le cas notamment pour les plateformes d'accueil pour demandeurs d'asile ou l'aide juridique aux étrangers en centre de rétention. Et ce qui créer une autre relation entre les associations et les autorités. On n'est plus du tout dans le partenariat. Aujourd'hui, les associations soit mettent en œuvre les politiques des autorités, soit elles arrêtent, soit elles quittent ce secteur.
Pascaline Chappard.
Oui, effectivement. Enfin, c'est effectivement cette question-là dépasse largement la question de la détention et de l'expulsion. On voit très très simplement avec les visas. Enfin, le nombre d'entreprises qui se créent pour faciliter l'accès aux visas est complètement démultiplié. Et puis on le voit aussi de plus en plus actuellement avec ce qui s'appelle la dématérialisation des rendez-vous en préfecture, où on a le même phénomène de privatisation en fait.
The borders moving away to survive. See them cross the barriers, see them cross the borders moving away to survive. See them cross the barriers, see them cross the borders.
Merci beaucoup à nos invités, Lydie Arbogas qui était avec nous à l'instant par téléphone. Un grand merci à nos deux invités ici en plateau, Pascaline Chappard. Je rappelle que vous êtes postdoctorante à l'Institut de Recherche pour le Développement. Merci également à vous, Mathieu Tardis, chercheur au Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI, l'Institut Français des Relations Internationales. On poursuivra évidemment notre série consacrée aux frontières de la colère demain. Mais pour l'heure, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous nous parlez de méritocratie aujourd'hui. On ne compte plus les essais récemment parus dans les pays anglo-saxons en particulier, mettant en cause la méritocratie.
Oui, prenez Mark Bovens et Hans-Richt Wille qui signent un livre intitulé, j'ai changé de micro parce qu'il ne marche pas bien. Oui, Mark voilà, Bovens et Hans-Richt Wille signent un livre intitulé Diploma Democracy, The Rise of Political Meritocracy. On y lit que les dirigeants des partis de gauche ont cessé de se recruter parmi les syndicalistes. Ils ont fait les mêmes études que ceux de droite. Dans Success and Luck, Good Fortune and the Myth of the Meritocracy, Robert Franks montre que les success stories sont en général bien davantage dues à des coups de chance qu'à des mérites particuliers. Daniel Markovitz, qui est dans The Meritocracy Trap, dénonce lui le mythe de l'égalité des chances devant les cursus universitaires aux États-Unis parce que les enfants des familles aisées disposent d'avantages écrasants. Alors certes, écrit Eric Posner dans Project Syndicate, à mesure que nos sociétés deviennent plus complexes, le nombre des experts requis pour les faire fonctionner ne cesse de croître. Et l'enseignement supérieur a été chargé de fournir nos machineries sociales en spécialistes de toutes sortes. Les clivages de classe d'autrefois, assis sur la naissance ou la richesse, ont été remplacés par ce que les Américains appellent désormais
un fossé éducatif, education gap. Mais notre problème à tous, c'est que le règne de l'expertise entre en contradiction avec la logique démocratique elle-même. Celle-ci veut que nous disposions tous d'une égale voix au chapitre lorsque l'intérêt collectif est en jeu. Les experts entendent soustraire au libre choix du public un nombre croissant de décisions. Trop complexe pour faire l'objet d'un débat démocratique, disent-ils. Et c'est l'une des sources du regain populiste qui menace le fonctionnement même de nos démocraties. Le règne de l'expertise pose un problème fondamental, poursuit Postner. Tous autant que nous sommes, car même les plus qualifiés d'entre nous ne maîtrisent qu'un champ du savoir extrêmement limité, tous autant que nous sommes, nous devons donc nous soumettre à des règles que non seulement nous n'avons pas choisies, mais que bien souvent nous ne comprenons pas. Nous faisons confiance aux météorologues pour savoir s'il faut emporter notre parapluie, nous nous endormons en avion confiants dans les compétences des pilotes, mais d'où vient alors que certains d'entre nous refusent de se faire vacciner, comme nous y incitent les médecins, et que d'autres, ou les mêmes, refusent l'évidence du réchauffement climatique.
Mais alors Brice, justement, pourquoi cette méfiance envers les experts?
De ce que nous sommes plus si certains que tous les spécialistes utilisent leurs compétences au profit du bien commun. Du soupçon que certains privilégient leurs propres intérêts de caste ou cherchent à renforcer leur propre pouvoir. Aux États-Unis, les experts auxquels faisait confiance le public ont provoqué des catastrophes, depuis la guerre du Vietnam jusqu'à la crise de 2008. Mais c'est surtout le sentiment que la méritocratie est devenue une classe fermée qui provoque son rejet. Prenez le Sutton Trust, une organisation caritative britannique destinée à favoriser, par des études et des bourses, la mobilité sociale. Elle vient de rendre son rapport sur l'élitisme en Grande-Bretagne. Accablant. Le Royaume-Uni est décrit, je cite, « comme un pays dont les structures de pouvoir sont dominées par une étroite section de la population et où la mobilité sociale faible ne s'améliore pas ». Quelques données chiffrées, seulement 7% de la population britannique a étudié dans une école privée, mais 39% des élites sociales en sont issues. Seulement 1% de la population a eu la chance d'accéder aux deux prestigieuses universités d'Oxford et de Cambridge. Un quart des élites en provient. Commentaire de The Economist, je cite « Cette stratification sociale calcifiée est responsable de l'inepte chaos dans lequel nous nous trouvons. La flaque génétique que siphonne les rangs de l'élite est devenue superficielle et fétide. Ceux qui, au gouvernement, font les lois, ceux qui surveillent les services publics chargés de les mettre en œuvre, ceux qui plaident devant les tribunaux, ceux qui les évaluent dans les journaux, sont issus d'une couche tellement étroite que cela pourrait bien être une seule et même personne. Ils donnent le ton, ils définissent les paramètres de ce qui est institutionnellement accepté. Cela a toujours été absurde et malsain, mais c'est récemment devenu intenable. Le Premier ministre qui nous a fourrés dans le gâchis du Brexit a été dans la même école et fait partie du même club de dîner de la même université que la personne qui va lui succéder dans les semaines à venir. Le modèle du leadership dans ce pays est en train de se désintégrer. La Grande-Bretagne est gouvernée par une clique égocentrique qui récompense l'appartenance au groupe au détriment de la compétence. Qui aurait cru, Florian, que The Economist, l'hebdomadaire de l'élite libérale et mondialiste, ferait usage d'une rhétorique aussi populiste. Certes, les Britanniques ont des raisons assez particulières de se plaindre de leurs élites dirigeantes. Le Brexit se révèle absolument catastrophique. Mais le malaise envers la méritocratie est en train de devenir général.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain.